Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bienvenue à ce journal présenté par Belinda Boussouma. Voici le sommaire. Calme précaire ce dimanche dans la cité de Rutshuru au nord Kivu. Les FARDC maintiennent toujours leur position au niveau de Rwanguba, alors que les rebelles M23 sont dans certains villages des groupements des Djomba et Busanza. Entre-temps, le secrétaire général de l'ONU, préoccupé par la situation dans l'est de la RDC, invite notamment les groupes armés étrangers à désarmer immédiatement et à retourner dans leur pays d'origine. Célébration aujourd'hui 19 juin de la journée mondiale de la drépanocytose. La RDC, troisième pays au monde avec un grand nombre de drépanocytaires. Révélation du docteur Mwanza Nangunia, médecin pédiatre. Il assure la prise en charge gratuite des plus de 160 enfants atteints de cette maladie à Bukavu. Et puis, la cataracte chez un enfant doit être traitée de toute urgence au risque que sa vision ne se développe pas. Déclaration du docteur Jason Pitua de la clinique Aide Vision de Goma. C'était à l'occasion de la campagne de sensibilisation contre la cataracte. Docteur Pitua est l'invité de ce journal. Madame, messieurs, bonjour. L'actualité, c'est d'abord au nord Kivu. La cité de Rutshuru s'est réveillée et dans une accalmie précaire ce dimanche, selon plusieurs sources sur place. Selon elle, l'armée congolaise maintient toujours ses positions au niveau de Rwanguba, alors que les rebelles M23 sont au niveau de Tchingiriro et certains autres villages des groupements des Djomba et Busanza. Aucune détonation n'a été entendue dans la zone depuis hier, disent ces sources. Elles ajoutent cependant que l'hôpital de Rwanguba aurait été évacué et les malades transféré vers l'hôpital général de Rutshuru. Cette opération d'évacuation a créé une certaine panique au sein de la population et d'après des sources des FARDC, l'armée contrôle le pont de Rwanguba et veille à contrer l'entrée dans toutes les zones susceptibles d'être empruntées par les rebelles du M23, indiquent des sources sur place. Pendant ce temps, dans le territoire de Beni, la société civile alerte sur plusieurs barrières illégales érigées par les groupes Mai Mai dans le groupement Baswa-Madiwe, une situation qui met à mal la quiétude de la population. Cette dernière demande au gouvernement de concrétiser son programme de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire et sociale en faveur de ses ex-combattants volontaires au processus de paix dans la région. Marc Marofimbo pour les détails.
Les sources locales indiquent que ce sont les éléments Mai Mai cantonnés dont la partie sud et ouest du groupement Baswa-Madiwe qui commencent à quitter leur campement l'un après l'autre pour se rendre dans les localités et villages voisins. Leur position se situe à Kisasa, Mambabwaya, Mambale dans le Irango, Kirea dans le Kabashi, Amakombo et même Angazi. On signale également leur présence vers Kiavitsoho sur l'axe Mabalako-Butembo. Ces derniers commencent même à ériger des barrières pour demander aux passants motocyclistes et piétons de l'argent dont les montants varient entre 500 et 1000 francs congolais. Cette situation inquiète la société civile du groupement Baswa-Madiwe qui pense que le gouvernement doit prendre les mesures idoines afin d'encadrer ces derniers qui ont même été représentés au dernier dialogue de Nairobi. Pour sa part, l'armée continue à sensibiliser les groupes armés à déposer les armes et rejoindre le processus de la paix par les biais de la démobilisation. Pour les porte-parole des opérations militaires Sokola 1 dans la région, ceux qui veulent servir le pays sous les drapeaux doivent suivre le processus légal de recrutement afin de rejoindre les forces armées de la République démocratique du Congo. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Pour sa part, le secrétaire général de l'ONU reste préoccupé par la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Antonio Guterres appelle tous les groupes armés congolais à participer sans condition au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS et les groupes armés étrangers à désarmer immédiatement et à retourner dans leur pays d'origine. Le secrétaire général de l'ONU dit réaffirmer son soutien aux efforts nationaux et régionaux visant à promouvoir la paix et la stabilité en RDC et dans la région des Grands Lacs. Ce notamment par le biais du processus de Nairobi et du prochain conclave des chefs d'État. À cet égard, le secrétaire général exprime sa satisfaction pour les efforts du président Kenyatta dans la poursuite de la paix et la sécurité dans la région. Ce message est contenu dans un communiqué du porte-parole adjoint du secrétaire général des Nations Unies, communiqué publié samedi 18 juin. Pendant ce temps au Maniema, nous apprenons qu'une personne vient d'être tuée ce dimanche matin dans la commune rurale de Kalima, territoire de Pangui. Selon le bourgmestre de cette commune, la population a agi de la sorte après la marche organisée par l'UDPS, section de Kalima, pour soutenir les FARDC qui sont au front au nord Kivu et qui a dégénéré. Cette situation a paralysé toutes les activités dans cette commune, affirme le bourgmestre. Saisi, le gouverneur intérimaire du Maniema est en route vers Kalima en ce moment même. Dans le même registre, la coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu appelle la population à privilégier la paix et à bannir les discours de haine pendant cette période où le pays fait face aux menaces sécuritaires. Edgar Matesso, vice-président de cette structure citoyenne, l'a dit à Radio Kapi à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les discours de haine, journée célébrée le 18 juin. Pour lui, le fait de s'attaquer aux individus sur base de leur appartenance communautaire est un jeu au profit de l'ennemi, d'où la nécessité de promouvoir la cohabitation pacifique des communautés pour la lutte d'une paix durable. Edgar Matesso est au micro de Grâce Hamzati.
Nous devrions connaître que l'effraction est individuelle. Si un membre de ma communauté se retrouve dans les rangs des rebelles, ce n'est pas moi. Et que lorsque nous voulons agir sur base de manipulation et nous attaquer aux uns et aux autres sur base de nos appartenances communautaires, nous perdons notre objectif. Si nous pouvons être à mesure de nous souder sans regarder notre appartenance ethnique, religieuse, idéologique, nous nous soudons contre l'ennemi sans regarder non plus son appartenance sociale, nous pouvons arriver à vaincre l'ennemi. Surtout que personne n'a choisi de naître de telle ou telle autre communauté. On va se rabattre aux innocents et on laisse malheureusement les bourreaux. Et donc nous devons éviter de victimiser les autres, nous devons éviter de généraliser, plutôt nous devons développer chacun dans sa communauté des éléments qui cherchent à promouvoir la paix, à promouvoir la concorde, la cohabitation pacifique.
Du côté du Haut-Katanga, Mgr Donatien Chole, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, invite le peuple congolais à ne pas développer l'inimitié avec nos voisins. Il a dit hier, en marge de la clôture du colloque sur le vivre ensemble, organisé par l'archevêché de Lubumbashi. Mgr Donatien Chole est au micro de Jean Gando.
Je crois que le président de la CENCO a lancé un message il n'y a pas longtemps dans lequel il invitait à tous ceux qui sèment la désolation à l'Est, particulièrement à Goma, de cesser avec les armes. La violence ne sera jamais une solution à nos contentieux. Il y a d'abord le devoir de se convertir parce que qui tue pêche. Il doit se convertir. Il y a devoir de dialoguer là où c'est nécessaire. Mais là, ce que je crains personnellement, c'est aussi cette tendance de l'inimitié qui commence à croître entre les Congolais et nos frères voisins. Donc, il ne faudra pas que nos revendications puissent prendre le dessus sur la parole de Dieu qui nous invite, comme nous venons de l'entendre, à vivre ensemble.
Dans l'actualité aussi, cette visite depuis vendredi à Kalemie du représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU et coordonnateur des affaires humanitaires en RDC, Bruno Lemarquis, fait partie de la délégation du leadership de la MONUSCO qui doit procéder à la fermeture du site de la MONUSCO dans le Tanganyika le mardi 21 juin prochain. Sur place, il a visité le site des déplacés, des retournés et des relocalisés à Tabakongo, villa située à une vingtaine de kilomètres de Kalemie centre. Plus de détails avec Fulbert Balolagué.
Depuis avril 2022, près de 1810 retournés et relocalisés venus du site des déplacés de Kalunga vivent à Kabembe. Leur retour s'inscrit dans le processus d'appui au retour volontaire des déplacés en lien avec la fermeture des sites autour de Kalemie. Certains d'entre eux ont choisi d'ériger domicile dans cette zone et ils sont accompagnés dans ce processus, comme le dit Bruno Lemarquis.
Il y a tout un programme d'appui pour ces familles. Ils sont en train de construire les maisons. Il y a eu le travail qui a été fait avec le cadastre. Il leur a été alloué une parcelle de terre pour construire la maison, faire le petit potager. Et ensuite, il leur a été alloué une terre agricole de 70 mètres par 50 mètres, ce qui fait à peu près un demi-hectare, un peu éloigné, mais en tout cas, ils ont une terre agricole. Donc ces familles vont se réinstaller dans cette communauté, ils construisent la maison et ils vont pouvoir produire et pouvoir vivre de la terre.
Il s'y dénotait qu'entre octobre 2021 et mars 2022, la communauté humanitaire a appuyé le retour et la relocalisation des près de 11 000 déplacés vers les localités de Elia, Lukwangulo, Kikumbe Village, Kiamsenchi, Mulengi, Saliboko et Tabakongo dans les territoires de Kalemie. La fermeture du dernier site est en cours. Ces sites fermés existaient depuis 2017 pour la plupart. Fulbert Balolagué, Kalemie, Radio Okapi.
Nous sommes le 19 juin et c'est la journée mondiale de la drépanocytose ou anémie SS, une maladie génétique qui tue plusieurs enfants de moins de 5 ans. S'ils n'y sont pas correctement pris en charge, la RDC est parmi les pays du monde avec un grand nombre de personnes drépanocytaires. À Bukavu, un médecin pédiatre assure la prise en charge gratuite de plus de 160 enfants atteints de l'anémie SS. Il appelle la communauté à éviter de stigmatiser ces malades et invite au dépistage médical des personnes avant le mariage pour prévenir des cas de drépanocytose. Docteur Mwanza Nangunia explique au micro de Emmanuel Elamegi.
Notre pays occupe la troisième place parmi les pays qui regorgent le plus grand nombre de drépanocytaires. Il y a d'abord l'Inde, le Nigeria, puis RD Congo. Et aujourd'hui, on estime qu'environ 25 à 30% des Congolais sont des porteurs de gènes S. Et on pense également que 2% des enfants qui naissent au Congo sont des SS chaque année, ce qui représenterait à peu près 50 000 enfants qui naissent avec cette maladie. Et je voudrais souligner très rapidement que la drépanocytose, c'est une des grandes causes de la mortalité infantile. Elle est responsable d'environ 10% des décès des enfants de moins de 5 ans. La meilleure façon de prévenir cette maladie, c'est les dépistages précoces, les dépistages avant le mariage. Donc, il faut éviter les mariages à risque, les mariages des porteurs sains et les mariages de sexes malades entre eux ou les mariages de sexes malades avec les porteurs sains.
Plus de 6 000 médecins sur près de 8 000 répertoriés et un peu plus de 10 000 agents des autres catégories professionnelles de la santé ont été alignés à la prime des risques en RDC. Ces chiffres ont été donnés par le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani. C'était hier lors du lancement des travaux de l'atelier de l'harmonisation de l'enveloppe salariale et de l'alignement à la prime des risques des médecins, infirmiers, administratifs et autres professionnels de la santé des services publics de l'État. Séance tenue au village Vénus à Bibouard, dans la commune de Lancele à Kinshasa. La cérémonie a été présidée par le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Le compte-rendu de Jean-Pierre Ilali Koko.
C'est dans cette ambiance très syndicale que le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a lancé les travaux de l'atelier des Bibois. Cet atelier réunit le gouvernement et les banques syndicales. Il a pour but d'harmoniser l'enveloppe salariale et d'aligner à la prime les professionnels de la santé. Jean-Jacques Mbungani, ministre de la Santé publique, s'est réjoui de la mise en œuvre progressive du protocole d'accord signé avec les banques syndicales.
Je suis heureux de confirmer qu'il y a des avancées significatives de ces rencontres régulières entre le gouvernement de la République et le banc syndical.
Pour sa part, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou s'est fait grand défenseur de la justice sociale.
Nous devons agir ensemble et il est temps pour réduire ces disparités, réduire ces injustices sociales, ces inégalités inacceptables.
Parlant au nom du banc syndical, le président du SINAMED, le professeur Senga Luamba, compte sur la bonne foi du gouvernement.
Que lorsque le début est bon, nous pensons que la fin le sera aussi. Donc nous sommes pleins d'espoir, nous croyons à la franchise du gouvernement.
La clôture des travaux intervient, sauf imprévu, c'est lundi 20 juin.
Direction l'Ituri, des femmes déplacées ont lancé samedi la vente des serviettes hygiéniques réutilisables dans la ville de Bunia. C'est à travers une foire d'exposition-vente organisée au camp des déplacés de Kigonze par le ACR en collaboration avec ses partenaires humanitaires. Cette activité a pour objectif d'appuyer l'autonomie financière des personnes déplacées et les communautés hôtes. Clarisse Zindula, reportage.
Au total, 3000 serviettes hygiéniques réutilisables fabriquées sur place par une trentaine de femmes déplacées ont été exposées au cours de cette foire. Le responsable de suivi du projet au sein de ADSSE indique que ces serviettes hygiéniques sont une solution à plusieurs défis auxquels font face les femmes ituriennes. Violette Acquire.
Leur permettre de réutiliser ça même pendant 6 mois, mais aussi dans le cadre aussi de la gestion de l'environnement.
Pour les bénéficiaires, c'est une bonne affaire. Ces serviettes sont pratiques et adaptées au contexte. Grâce à ce nouveau commerce, elles comptent prendre soin de leur famille et surtout assurer la scolarité de leur enfant. Mave Akike, femme de déplacés venus du territoire de Djougou. Je dis merci pour cette formation. Ce nouveau travail va m'aider dans ma vie de déplacé, et même plus tard. Mes enfants vont désormais recevoir les soins dont ils ont besoin. À en croire le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ces mêmes activités seront réalisées dans d'autres territoires de la province de l'Ituri. Car l'objectif est de rendre résilientes ces femmes déplacées où qu'elles se trouvent en Ituri, affirme Denis Oulaye, chef du bureau du HACR à Bounia. Bounia, Clarisse Zindula, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Une session des prières œcuméniques pour la paix et la justice au Soudan du Sud a été initiée par les membres du Conseil des Églises du pays. C'est en marge de la visite annoncée du pape François, mais le voyage du souverain pontife a été ajourné pour raison de santé. Dans un pays déchiré par les violences depuis son indépendance en 2011, le pape François était attendu en pacificateur et en réunificateur. Les Français sont à nouveau appelés aux urnes pour le second tour des élections législatives ce dimanche 19 juin. C'est pour élire les 577 députés pour 5 ans.
L'invité.
La cataracte chez un enfant doit être traitée de toute urgence. Dans le cas contraire, sa vision ne se développera pas. Message du docteur Jason Pitoua de la clinique Aide Vision de Goma à l'occasion de la campagne de sensibilisation contre la cataracte. Cette campagne rentre dans le calendrier du programme national de la santé oculaire et de la vision. Le docteur Jason Pitoua, notre invité, s'entretient à ce sujet avec Rosalie Zawadi.
Docteur Jason Pitoua, bonjour.
Bonjour madame.
Quelles sont les activités que vous menez dans le cadre de cette campagne du mois de juin?
Alors, pendant le mois de juin, la communauté des soins oculaires dans le monde et les programmes nationaux qui sont intéressés par la santé oculaire ont choisi ce mois pour la sensibilisation contre la cataracte. Alors, nous représentons ici le programme national de la santé oculaire et de la vision au niveau de la RDC. Et aussi, en étant acteur et clinicien, nous suivons ces programmes que prône le programme national et la plupart des pays aussi dans le monde qui sensibilisent contre la cataracte.
Qu'est-ce qu'on peut savoir sur la cataracte?
C'est que la cataracte est définie comme l'opacité du cristallin. Et le cristallin, c'est une petite partie de l'œil qui normalement est transparent. Alors pour diverses causes, l'œil peut perdre la transparence au niveau du cristallin, qui fait que le cristallin devient opaque et ne permet pas à la lumière de passer. Ça veut dire que la personne a comme une obstruction interne qui fait que son œil ne peut pas percevoir correctement. Alors la deuxième chose qu'il faut retenir avec la cataracte, c'est que elle constitue la cause principale, la première cause de cécité dans le monde entier, parce que d'environ 40 millions de personnes qui sont aveugles dans le monde, près de la moitié le sont à cause de la cataracte. Autre chose que nous devons savoir, c'est la bonne nouvelle par rapport à la cataracte, que c'est bien que c'est la cause principale de la perte de la vision. Elle est réversible totalement parce qu'il existe une cure pour la cataracte. Et quand on a opéré la personne qui souffre de la cataracte, elle peut totalement recouvrer sa vue. Et aussi, il y a des formes de cataracte qu'on peut éviter parce qu'il y a des cataractes qui sont secondaires. Et ça peut être secondaire à certains traumas. Ça peut aussi être secondaire à certaines maladies générales comme le diabète sucré. Alors si le diabète sucré est bien contrôlé, il y a peu de chances qu'il provoque la cataracte. Et quand il n'est pas suffisamment bien contrôlé, la glycémie est très instable et ça finit par provoquer de la cataracte qui est secondaire.
Est-ce que la cataracte est réversible à tous les niveaux, même si la personne était déjà devenue totalement aveugle?
Ça, c'est la très bonne nouvelle par rapport à la cataracte. Comme nous l'avons dit, elle est totalement réversible parce qu'elle constitue une opacité qui obstrue la vision. Il suffit de lever cette obstruction et la personne peut voir encore. Alors, ceci est vrai pour la cataracte de l'adulte. Parce que les enfants peuvent soit naître avec la cataracte, soit acquérir la cataracte à un âge vraiment très bas, même parfois à moins d'une année. Alors si on n'a pas soigné l'enfant très tôt, on peut soigner la cataracte, mais l'œil peut ne pas se développer parce que l'enfant peut développer ce que nous appelons amblyopie. Et dans ces cas, la cataracte sera réversible, mais la perte de la vue ou le manque de développement de la vue peut ne pas l'être.
Et la personne va grandir aveugle.
Voilà. La personne peut grandir aveugle, cela constitue toute l'importance qu'il faut pour détecter très tôt un enfant qui souffre de la cataracte, parce qu'il peut bénéficier d'une opération et lui permettre le bon développement de sa vision. Et un enfant qui est aveugle, quand on doit compter le nombre d'années qu'il sera aveugle, c'est vraiment très malheureux. Donc il est très important que la communauté des professionnels de santé puisse comprendre que la cataracte, chez un adulte, peut attendre le temps que ça attend. N'importe quand, on peut le soigner, il peut récupérer la vue du fait qu'il a déjà atteint la maturité visuelle il y a plusieurs années. Ce n'est pas la même chose pour l'enfant, parce que la cataracte infantile constitue une urgence.
Alors docteur, quel message à la communauté afin qu'aucune personne ne supporte, ne subisse la cécité pour une cause pourtant réversible?
Il faut que la personne soit orientée vers les structures qui ont la compétence de faire cela. Alors à cette solution au problème, il existe deux barrières. Des barrières qui sont d'ordre social, économique et financière, et parfois même d'ordre uniquement géographique. Parce que même dans notre pays, il y a des provinces entières qui n'ont pas de services. Et donc même celui qui a l'argent ne peut pas se faire soigner sur place s'il ne se déplace pas jusqu'à un endroit où se trouvent des structures qui peuvent le prendre à charge. Ça veut dire que la responsabilité pour ne pas maintenir aveugle des gens qui peuvent voir encore est partagée par la communauté, mais aussi par les dirigeants. Ça veut dire les gens qui prennent des décisions au niveau de la santé, au niveau du pays.
Docteur Jason Pitoua, merci.
Notre invité est médecin à la clinique Aide Vision de Goma et répondait aux questions de Rosalie Zawadi. C'est la fin de ce journal, supervisé et coordonné par Alain Rumouchinj et Noëlla Luzitukabambi. Polydor Basunga à la mise en onde et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci de votre attention.